Nous sommes le jeudi 26 juin. Il est 21h et des poussières sur Radio Cadu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa phase alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez notre équipe composée par moi-même, Xavier, et par Monsieur Romain, ici présent.
Salut Xavier.
Salut.
C'est quoi cette présentation?
C'est parce que je sais plus lire. Tu sais que j'ai perdu au moins 25% de capacité cognitive la semaine dernière.
C'est plus que ce que tu avais déjà.
Et sinon, en général, on parle de jeux indés, on parle de gros sous, on parle de lutte sociale, mais ce soir, on parlera surtout de jeux qui font peur. Ouh.
À ce point-là?
Un peu peur quand même. En fait, on va parler d'un jeu qui s'appelle Lighthouse et d'un studio qui s'appelle Ça part en prod avec les personnes de ce studio. Bonjour Ça part en prod.
Salut.
Salut.
À qui avons-nous affaire ce soir?
Alan.
Alan. Et
Jérémy,
bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On s'était vu pendant le Indie Game Lyon qui avait eu lieu en mai, si je ne dis pas de bêtises, et on avait déjà un peu essayé, on avait déjà regardé des vidéos du jeu auparavant. Moi je sais que c'était bien ma cam pour des raisons d'arachnophobie pour Romain c'était pas exactement ça.
Alors l'arachnophobie shaming ça suffit.
Mais effectivement en testant j'avais déjà un bon feeling en regardant le trailer et en jouant au jeu, j'étais carrément vendu au jeu, c'est pour ça qu'on s'est dit avec Romain que ce serait bien de vous inviter. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation.
Merci à vous pour l'invite surtout.
Déjà, ça part en prod. Alan, Jérémy, qui êtes-vous? C'est quoi le bail?
Alors, ça part en prod, ça a à peu près vraiment 4-5 ans. D'abord, il n'y a pas Jérémy normalement dans ça part en prod. Il y a Gauthier qui peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est pas sur Lyon, où on a voulu d'abord monter notre boîte entre nous à la fin des études parce qu'on voulait surtout faire dans de la production.
Vous avez fait des études de jeux vidéo?
On a fait un bachelor en game design et gestion de production à l'école GameSup.
Ok.
Qui est à Lyon, à Confluence. Et du coup, on voulait plutôt aider les studios à venir aider sur de la consultation de production s'il y a besoin. C'était plutôt ça ce qu'on voulait faire à la base. Et puis après, au bout d'un moment, on s'est quand même dit non, mais en fait, on a fait des études pour faire des jeux vidéo. On veut faire des jeux vidéo en fait. Et du coup, on a un peu tourné le truc. On a commencé à regarder un peu les jeux qu'on voulait faire. Et Jérémy, qui lui est un pro Unity de base. On a le jeu qui est sur Unity.
Est-ce que tu connais John Riticello? On en reparlera plus tard. On en parlera plus tard. C'est un copain.
On en a longuement parlé ici.
Et sauf que nous, on voulait faire un switch sur Unreal, parce qu'on n'avait pas trop fait d'Unreal et on voulait quand même faire le switch. Et Jérémy voulait s'entraîner sur Unreal, donc on s'est dit, vas-y, viens, on refait un truc. Et puis on s'entendait super bien déjà de l'école et on s'est dit, on fait un truc sur Unreal tous ensemble. Et c'est là où vraiment l'aventure Ça part en prod entre nous a commencé. Et par contre, officiellement, Ça part en prod a eu un an en mai, presque au même moment que Lydie Gamion.
D'accord, ok. Toi, Jérémy, donc t'es arrivé, même si t'es arrivé un peu plus tard dans l'aventure, c'est ça? Même si tu savais qu'il y avait déjà Alain et Gauthier qui étaient dans, tu savais déjà ce qui existait, tu suivais un peu de loin, comment ça s'est passé?
Oui, parce qu'en fait, Alain et Gauthier, c'est des amis qu'on s'est rencontrés à l'école, en fait. Et du coup, je suivais un peu ce qu'ils faisaient. Moi, j'étais vraiment côté création de jeux vidéo, donc ça m'intéressait pas forcément ce qu'ils ont pu faire avant de retourner dans le jeu.
Donc plutôt la prod. Donc,
ouais, ouais.
Parce que, pardon, j'interromps, mais vous avez fait un peu de prod avant de lancer la partie jeu ou...
Moi j'en ai fait parce que du coup je suis toujours freelance.
Okay.
Et dans ma freelance en fait je suis producteur. Gauthier lui après l'école il a pas réussi à trouver de stage, il a pas réussi à rentrer vraiment dans l'industrie, donc il est parti autre part. Il est retourné vers chez ses parents parce qu'en plus il avait envie d'être avec sa famille, mais c'était pas trop un souci. Et du coup lui n'a pas vraiment fait de la prod. Après, il en a toujours fait avec nous et on a toujours fait à l'école. Mmh. Donc, puis c'est un peu Gauthier, en vrai, c'est un couteau suisse qui sait un peu tout faire. Mmh. Donc, c'est pas grave s'il a pas eu de prod.
Mmh. Okay. Avant de revenir à toi, Jérémy, juste que pour que tu expliques aux gens, c'est quoi la prod en fait, parce que ça paraît évident pour nous parce que on est tous
un peu
au courant du jeu vidéo, mais c'est vrai qu'un peu expliquer c'est quoi la prod par rapport à faire des jeux vidéo, tu vois.
Eh ben, c'est un chef de projet. Alors tout dépend si on est dans l'indé, dans le double A, triple A, tout ça, les grosses machines.
Le quadruple A.
Ouais, maintenant, ouais.
Tu connais Singapour ? Bon.
moi, dans les trucs, dans ce que j'ai fait, j'ai commencé chez Artefact Studio pour faire mon stage et ensuite faire encore un petit peu dedans. Par exemple, c'est complètement différent de ce que je fais maintenant. Je faisais vraiment du chef de projet dans le sens où j'étais là pour les plannings, je faisais les prévisions, je remontais à mes N+1 ce qui se passait et tout ça. C'est pas moi qui vraiment montais mon équipe ou autre. Par contre là, maintenant, chez Gameleon, je vais beaucoup plus loin. Je fais tout le planning, je fais la gestion de budget, je fais aussi tout ce qui est documents pour aller chercher de l'aide. Là en ce moment on est en train de chercher pour faire du self-publish, donc c'est moi, je contacte aussi toutes les entreprises qui peuvent nous aider pour faire ça, comme des eco-partners ou des Notshark. Donc ça dépend vraiment dans la société dans laquelle on est, mais en gros on peut comparer ça à un chef de chantier quoi.
D'accord. Donc on est d'accord que c'est surtout de l'organisation, ouais, de la prévision, voire en fait avoir un coup d'avance sur ce qui va se passer dans X semaines, dans X mois, ouais, pour savoir en fait comment s'organise le travail, dans quelle direction ça va aller, et puis surtout mettre d'accord tous les parties prenantes, que ça soit les créatifs, les développeurs, les designers, les testeurs, etc.
Exactement.
Etc.
Et ouais, beaucoup de social.
Ouais, forcément.
C'est, donc, beaucoup... c'est vraiment le truc le plus important et qui est compliqué à apprendre, hein. Apprendre Excel et apprendre un truc pour gérer des tâches, c'est simple, c'est pas trop compliqué.
Apprendre
à gérer l'humain, c'est compliqué.
Oui, apprendre à être une graisse, la graisse du rouage, c'est pas forcément évident, c'est pas inné, quoi. Voilà. Merci, c'était juste pour préciser ce qu'était la prod.
Revenons au rouage, du coup. Si j'ai bien compris.
Bonjour, Jérémy. Oui, donc, tu voyais ces gens faire autre chose que du jeu vidéo, visiblement. Et toi, justement, comment tu t'es, qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là et comment justement tu t'es rapproché d'eux pour la création de sa part en prod?
Et bah, moi, du coup, pendant ce temps-là, à part du coup, mon taf, du coup, aussi dans l'industrie du jeu vidéo, donc j'étais à Dual Cat dans l'Hypercasu. On pourra en reparler après, ça peut être vachement intéressant. Mm-hmm. Mais. Sinon, en fait, j'ai toujours fait énormément de projets perso sur mon temps libre. Et c'était un moment où j'avais envie un peu d'apprendre un autre moteur de jeu. Et du coup, je m'intéressais à Unreal. Mmh. Et c'est là où, justement, en fonction du projet qu'ils avaient en tête, ça matchait plutôt bien, en fait, de se rassembler, en fait, et je puisse les aider à faire ça. Moi, au début, c'était vraiment juste pour vraiment m'amuser et tester des choses. Et au final, en fait, bah après, ça a été plus que ça.
D'accord. Non, mais après, moi, je comprends qu'on préfère Tim Sweeney à John Riticello. Tim, c'est un copain aussi.
C'est insupportable. T'es insupportable.
Ça va. J'ai pas parlé de Randy Pitchford encore. Ça non, va.
Ni de Bobby. Bon, hey, ça suffit. Je te coupe ton micro.
Ni de Bobby Kotick, oui, c'est vrai.
Et du coup, ouais. Donc là, on vous reçoit parce que on vous a vu donc pour un jeu. Qui s'appelle Lighthouse, mm-hmm, qui est le premier projet concret que sa part en prod a lancé, ou vous avez avant ça eu un petit peu de première expérience
qui est un peu plus avancé, qui est plus en étape de prototype, quoi.
D'accord.
On a sur le projet d'avant, il y a eu quelques prototypes sur des features qu'on voulait faire, mais de toute façon le projet, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop gros pour un premier projet. Et puis il y a une histoire aussi derrière Lighthouse de pourquoi on y est allé qui est plutôt intéressante à raconter, mais je pense que plus Jake peut plus raconter ça, quoi.
Donc en parallèle de mon travail, donc le jour, la nuit, j'étais sur faire un projet avec sa part en prod, et j'avais aussi d'autres projets, bah du coup perso.
Tu dors quand?
Oui.
D'accord. Excellente réponse. Excellente réponse.
Elle parlera à tous les développeurs, je pense.
À peu près tous. Et pas que jeux vidéo.
Ah, tout à fait.
Et du coup, ouais, j'étais sur un autre projet. C'était un peu le moment où, où je m'étais intéressé à Twitter grâce à. Grâce à des amis du coup qui étaient dans qui ont travaillé ensemble à Dualcat, donc Bastien et Paul, où justement on, ils suivaient vachement en fait et ils partageaient vachement leur travail. Du coup je me suis dit vas-y j'ai un petit projet là, vas-y je peux tenter de partager tout ça. Et au final ça s'est bien, enfin c'était au-delà de mes espérances en termes de visibilité, parce que mon tout premier tweet, donc du coup là c'est vraiment la direction artistique de Lighthouse, où je voulais un peu apprendre à faire du shader. Et du coup, je crois que j'avais fait un petit 4 jours et tout à travailler là-dessus. Et mon premier tweet, je crois, il a fait à peu près 40 000 vues. C'était mon premier vrai tweet sur cette plateforme. Et après, j'ai continué un peu à travailler dessus pendant un petit mois. Et mon travail était repartagé par 80 Level et Unity. Et du coup, c'est là où je me suis dit, visuellement, ça, la direction artistique, elle a l'air d'intéresser les gens en plus de l'ambiance sonore. Mm-hmm. Et du coup, c'est là que j'ai proposé du coup, à l'année Gauthier de plutôt partir sur ce projet qui avait déjà, entre guillemets, un intérêt du public. Et pour potentiellement revenir après sur nos anciens projets, mais l'histoire nous le dira. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on est parti du coup, enfin que moi j'ai vraiment officiellement rejoint sa part en prod avec du coup Lighthouse en tête.
Avant qu'on parle de sa part en prod, qu'est-ce que tu faisais exactement chez Dualcat?
Dualcat
c'est... Et pour ceux qui sauraient pas, c'est quoi Dualcat?
Ouais, c'est une boîte du coup à Paris qui fait des jeux hyper casu. Mmh. Donc des jeux sur téléphone assez, enfin très facile à prendre en main et pas très complexe, et tu vas plus essayer de simplifier au maximum tes mécaniques. En gros, on dit un peu que souvent c'est des jeux auxquels tu joues quand t'es dans une file d'attente ou aux toilettes.
Tu
peux donner un exemple pour
Le plus gros projet du Dualcat, c'est Bubble Tea, qui a plusieurs dizaines de millions, je crois, de téléchargements.
Un peu comme les jeux où tu sais il y a un panier de basket qui tourne et puis faut tirer dessus pour être sûr,
voilà,
que, ce genre de choses.
D'accord. Ouais, okay. Ouais.
En général c'est souvent du puzzle ou des runners, en tout cas quand
oui les runners ça marche très bien. Ouais.
Ouais, le téléphone est très adapté. Ouais,
pour... ouais. Et du coup et voilà on faisait ça, donc j'ai fait ça pendant 3 ans et du coup on était 3 pour faire un projet de jeu, donc on avait en général une semaine. Et après, on est passé à 1 en une semaine. Et en fait, c'était très intéressant. Je pense que c'est l'hypercasu, je pense que c'est intéressant quand tu commences le jeu vidéo parce que tu vas tester beaucoup de choses. Tu vas aussi pas mal te débrouiller. Tu vas vachement apprendre aussi par toi-même. Mais si on était vachement aidé par des gens qui avaient plus d'expérience.
C'est une game jam permanente.
Toutes les semaines, il faisait des game jams, en fait.
Ouais, c'est très formateur, c'est
voilà.
Ce que je veux dire.
Ouais,
c'est,
ouais. Ouais. Toutes les semaines, il fait des game jams, sauf que lui, il était pas bien payé. Alors que dans les game jams, ils sont pas payés.
Pas du tout.
Donc c'est, voilà, c'est progrès.
Mais si, voyons, en visibilité.
Non, mais progrès.
Enfin.
Mais ouais, du coup, donc j'ai fait ça pendant 3 ans, et du coup, c'était très, très intéressant. J'ai vraiment bien aimé. Du coup, je m'occupais plus de la partie design et programmation. Parce que comme le disait Alan, on a fait la même école, orientée sur le game design. Et moi, du coup, j'ai appris la programmation en autodidacte pendant mon temps libre, mm-hmm. avec mes différents projets. Et ouais, voilà.
C'est quoi Lighthouse?
Lighthouse, c'est une aventure puzzle horreur. Dans la lignée de, pour ceux qui vont connaître, de Little Nightmares, Inside, Limbo. Okay. En gros, là, actuellement, Lighthouse, spoiler alert, on n'est pas dans un phare, on est dans un monastère.
Ah, est-ce qu'on vous pose souvent la question d'ailleurs
tout
par rapport au phare? Ah, c'est marrant ça.
C'est étonnant parce que c'est le nom du jeu. Enfin,
On va y revenir. Et c'est un jeu très linéaire, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on. On est dans un niveau, ça peut être un couloir dans une pièce, on évolue dedans, on réalise des puzzles grâce à notre lumière. Le jeu, ça se passe avec une lumière, il est tout en noir et jaune. Donc le noir, bah, c'est le noir, et le jaune, c'est la lumière. Et on a un petit parasite sur notre bras qui nous sert de lampe torche. Et en fait, on doit avancer dans le niveau.
J'ai pas remarqué que c'était un parasite. Pour moi, c'était une lampe torche.
Pareil. Okay. Quand on a joué à l'Indie Gamion, à la version qui était disponible.
Pour moi, c'était lampe torche.
Pour nous deux, pour tout le monde, en fait, parce qu'on avait joué aussi avec Julien.
On a parlé, c'était lampe torche. Mais
ok. Bah, ouais, c'était peut-être. Nous qui n'avons pas repéré.
C'est un truc. De toute façon, c'est pas un spoil puisque c'est dans le trailer. Le mur avec les yeux.
Oui.
Il y a les yeux qui viennent popper. Bah, c'est un œil qu'on a là, en fait, sur le bord.
D'accord. Okay.
Bah, écoute, je suis content de l'apprendre. Je ne l'avais pas repéré pendant.
En fait, c'est un peu compliqué d'expliquer le lore en 15 minutes de jeu.
Bien sûr.
En plus, on ne le développe pas spécialement. Après, du coup, il y aura dans la progression en fait, du projet, justement, il y aura justement une évolution de ce parasite lampe torche. Mm-hmm. Et du coup, c'est là où on va pouvoir amener des variations dans les mécaniques.
Okay.
Qui vont être intéressantes et qui seront basées avec le lore du jeu.
Est-ce que les parasites sont gentils ou méchants?
Écoute,
dans le nom, on a un indice.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est. Enfin, justement, tu citais Limbo. Il y a aussi une histoire de parasite dans Limbo, en termes de gameplay, qui est très intéressante. Qui est très intéressante et du coup, et qu'on voit qu'on peut faire des choses pas mal, même entre guillemets, en retirant le contrôle entre guillemets. c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans la gestion du parasite, en tout cas dans Limbo. Little Nightmares, Inside, Limbo, donc c'était vraiment les trois jeux d'inspiration principale sur Lighthouse.
Bon, à la lumière, ça va être Plague Tale toute la gestion des rats. On n'a pas tout ce qui est DA. Il y a eu une grosse passe, c'était Morkborg. C'est un donjon et dragon, mais dans un univers un peu différent, qui est tout ce qui est en fait noir et jaune. Pour tout ce qui est de l'outline autour du perso, un peu comics, tout ça, c'est du Mignola avec
Hellboy. Mac Mignola, donc Hellboy.
Ouais,
ok,
exactement.
C'est vrai que sur le côté très couleurs saturées et découpées, il y a une DA qui fait penser effectivement à du Hellboy. Sur le côté la gestion des couleurs très saturées, c'est sûrement quelque chose peut-être des retours qui ont été faits lorsque t'avais mis les premiers concepts sur Twitter, peut-être.
Ouais, moi, on m'avait parlé de Morkborg justement à ce moment-là. Mm-hmm. Je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que ça y ressemblait vraiment bien. Mm-hmm. White Knight aussi, mais en jaune. Il y a pas mal de ça aussi, et je pense que ça devait être une inspiration
inconsciente.
Ouais, je pense que c'était vachement ça. Je sais qu'à ce moment-là du projet, j'avais Skim en tête. Chim, je sais jamais comment on dit.
Alors je crois que c'est une saleté parce que le flamand est une langue de merde. je crois que c'est Srim.
Srim.
Je peux le dire, je parle allemand.
Oui, mais pas flamand. Oui.
Voilà, donc Srim.
Mais c'est vrai que tous ceux qui parlent pas flamand trouvent que c'est une langue de merde.
Ah. Voilà. Donc on parle du jeu où tu te balades d'ombre en ombre.
C'est ça.
En étant une sorte de petite grenouille. Concept très sympa. Étant passé.
Ouais. Trop cool, ça.
Mais question, parce que tu disais, en fait, toi, tu es plus programmation, game design. On est en train de parler d'A. Du coup, c'est toi aussi.
Du coup, c'est moi qui avais posé la base. Et après, du coup, on a le studio Gaméléon avec qui on travaille. Et du coup, avec des gens que c'est. Plus le métier que moi, qui ont pu justement apporter du coup la DA Hellboy, Mignola, où justement ils ont pu faire beaucoup de propositions, on a beaucoup travaillé ensemble pour voir aussi ce qui était le plus intéressant en termes de gameplay et de narration. Et c'est comme ça après qu'on a raffiné un peu cette direction artistique qui est vachement importante pour ce jeu-là en fait.
C'est ce qui fonctionne très bien quand on découvre le jeu, en tout cas dans mon cas, c'est ce qui a énormément contribué à l'immersion dans le truc en fait, ces jeux de lumière, ces jeux d'ombre principalement, et c'est ça qui fonctionne très très bien. Il y a le moment où on est sur une espèce de long chemin de ronde, je sais pas ce que c'est, mais on voit au fond des sortes de statues, des sortes de voilà, et là ça fonctionne très très bien en termes vraiment visuels. On sent qu'il y a une unité même en termes de direction artistique que ça raconte quelque chose. Tu parlais d'un monastère, c'est pas forcément l'élément que j'aurais ressorti en fait de ça, mais tu sens effectivement quelque chose pas forcément de religieux, mais en tout cas de spirituel un peu, des sortes de statues, ouais, qui représentent quelque chose qu'on veut glorifier en tout cas. Mais c'est ça qui est intéressant, ouais, je trouve, ça fonctionne très bien, cette mise en avant de la lumière et des jeux de lumière et des jeux d'ombre par des.
Oui, pour le coup, c'est vraiment une chose qui est très efficace quand on découvre le jeu. Mm. Le fait de voir, entre guillemets, le parcours du faisceau de la lumière qui va cacher ou ne pas cacher certaines choses, qui va laisser deviner ou pas deviner certaines choses. J'ai souvenir d'un moment où c'est techniquement pas du gameplay. En fait, c'est juste, on est en train de traverser une sorte de pont.
C'est ça que je pensais, en fait.
Bon, voilà.
Où
justement, dans le fond, on devine des choses. Au premier plan, on devine des trucs, des machins qui bougent.
À un moment, oui, il y a un truc qui bouge. J'ai deux, trois trucs à vous dire à ce sujet.
Des machins qui bougent. Mais de manière générale, c'est vrai que le côté justement très saturé des couleurs permet, enfin, il accentue et le côté très clair au final de ce qu'on voit, et le côté finalement, je vais pas dire horrifique, mais en tout cas il y a d'épouvante, parce que pour moi il y a pas d'élément d'horreur
inquiétant pure. Inquiétant,
voilà.
En tout cas
inquiétant, ouais. Du fait que ben
tu
es inquiet de ce que tu peux voir, et tu es encore plus inquiet de ce que tu vois pas. Et donc ça, c'est pour tout. Je trouve que en termes de DA, c'est bien fichu.
En termes de mise en scène, je trouve la mise en scène de ce passage là justement où tu es attiré par ce qu'il y a au fond, et tout d'un coup, tu vois les éléments qui bougent au premier plan.
Oui, le choix de caméra fixe.
Ouais, voilà, c'est cette petite mise en scène qui est très simple en termes vraiment de construction, mais qui est très efficace aussi.
C'est vrai que par rapport à Limbo ou à Inside, on est plus sur du Little Nightmares parce qu'on est sur une troisième dimension. Vu que les Inside et Limbo, c'est des jeux où c'est à droite ou à gauche où tu sautes, mais ça s'arrête là. Mmh. Alors que Little Nightmares, et c'est en plus c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai reproché à Little Nightmares, notamment sur ces phases de plateforme qui sont horribles à cause de ça.
De la lecture de la perspective.
La lecture de la perspective, elle est très très embêtante sur Little Nightmares.
Ah non, il y a pas de saut, donc au moins. Comme
voilà,
ça.
donc voilà. Mais justement, je trouve que c'est le fait, on utilise la profondeur de manière assez différente, notamment lorsque au lieu d'aller entre guillemets d'aller de gauche à droite, à un moment on va vers le fond, et du coup ça change aussi la perspective de ce qu'on attend, de ce qu'on, donc ça c'est, et justement toutes ces idées là que vous avez mis en tout cas dans la démo, en tout cas dans l'extrait qu'on avait pu tester, c'est des choses en fait auxquelles vous teniez, des choses qui étaient des choses que vous avez pris d'autres jeux, des choses que vous vouliez amener de façon nouvelle. Comment ça s'est passé, comment ça s'est goupillé?
Pour répondre du coup à la question, enfin plus au sujet justement de la profondeur, c'est quelque chose qui est venu un peu naturellement avec le fait d'avoir du coup cette lumière qu'on veut diriger. Et c'était beaucoup plus naturel en termes, manette en main, de jouer en fait sur la profondeur plutôt que de jouer que sur du droite gauche au bas. Et du coup c'est un peu pour ça aussi qu'on s'est pas embêté avec du platforming, parce que déjà on n'a pas forcément le temps de gérer ça, et c'était pas forcément si intéressant en fait pour le gameplay.
C'est dur à faire du bon platforming, enfin la gestion des sauts, la gestion du air control dans les sauts, est-ce que t'en mets pas. En plus, comme c'est un jeu justement avec de la profondeur, comment tu gères aussi la profondeur dans ces sauts là, les timings, etc. Moi j'adore les jeux de plateforme, mais je sais, pour avoir joué à des jeux de plateforme pas si bons que ça, que ça se joue à pas grand chose en termes d'équilibrage.
Il y a toujours à un moment donné des problèmes pour réussir à sauter.
Quand tu de côté,
la perspective, comment est-ce que tu vas l'accentuer ou pas, justement, quel angle tu vas donner à ta caméra,
même sur des très bons plateformeurs.
Mais ouais, il y a toujours une, il y a toujours d'autres manières en fait, bah du coup de pouvoir prendre de la hauteur et du coup jouer sur la verticalité dans les niveaux. Donc pour l'instant, on est assez soft là-dessus, mais c'était plus par coup de développement. Mais ouais, pour ce qui est quand même, parce qu'il y a quand même un intérêt à avoir un saut. En tout cas, c'est de pouvoir bah du coup pas avoir que quelque chose de tout plat et justement bah jouer avec des variances là-dessus et c'est important ouais, quand même de d'avoir du changement dans la manière dont tu progresses dans ces niveaux.
Moi, je dirais que c'est un truc qui pourrait être un petit peu, enfin, qui est toujours un petit peu gênant dans certains jeux où tu peux pas sauter, où tu vas te retrouver bloqué par une marche que tu as l'impression qu'il suffirait que tu lèves la jambe pour passer. Et du coup, c'est effectivement, bah, ça t'oblige à construire tes niveaux, ou alors effectivement extrêmement plat, ou alors avec des vrais différence de hauteur. Il y a un ou deux moments dans la version qu'on a pu tester où il y a des sortes d'escaliers.
Oui, il y a notamment la partie énigme avec la partie puzzle avec les générateurs,
ouais,
où il y a des parties plus hautes, des parties moins hautes, et ça fonctionne pour le coup.
Ouais, ça fonctionne bien, mais du coup, ça oblige à faire des vraies séparations et pas juste une séparation visuellement simple. Et trop simple, qui fait que ça te frustre d'avoir l'impression que tu pourrais passer quand même, alors que non.
Ouais, on est très sensible à ça, justement, bah, dans ces jeux comme ça, à forte ambiance. Tu veux pas, en fait, venir sortir le joueur de son expérience s'il se prend un mur invisible. Et du coup, on a des escaliers, on a aussi des petits moments où on invite le joueur à se laisser tomber.
D'accord.
Notamment quand on arrive dans la petite phase après le couloir avec des yeux. T'arrives dans une sorte de petite salle de prière, on va dire, où là justement on t'invite à descendre, et ça te permettait justement bah, d'avoir des variations en fait dans cette progression.
Vous avez parlé de jaune. Moi, j'ai envie de parler de bleu.
Parce qu'on est allé au bout du jeu.
Que, oui, enfin ça va. J'ai vaincu la démo. C'était waouh.
Bravo.
Le jaune était délibéré, mais justement c'était le choix uniquement pour le jaune par rapport à Lighthouse, justement le nom, enfin la lumière jaune et tout ça. Vous étiez parti uniquement sur du jaune, ou il va y avoir des variations sur les aplats, sur des biomes, pour apporter du lore, etc.
C'est encore en réflexion, ça.
D'accord.
Ouais, on a fait pas mal de tests. Ouais, là, du coup, on est vraiment sur du jaune. Donc, déjà, ça a pas mal évolué parce que tout début, en fait, on avait un jaune très précis. On n'avait que ça. Et du coup, là, en fait, en retravaillant un peu les ombres et faciliter la compréhension de ton environnement, on a vraiment des intensités quand même de jaune qui vont du plus vibrant au plus sombre. Et qui permettent à des moments quand même d'éclairer des zones sans pour autant y voir 100%, mais de garder quand même ce côté très contrasté. Et on a aussi, on n'a pas que ça, on a aussi du rouge, attention.
Oui, il y a un peu de rouge qui coule un peu. Oui.
Il y a des restes à des moments.
Il y a qui coule un peu, oui.
On sent qu'il s'est passé quelque chose.
C'est vrai.
Et après, le jaune aussi, c'est parce qu'au départ, comme on avait le même jaune de partout et même dans la lampe torche.
Oui.
En fait, quand on avait la lampe torche allumée et qu'elle éclairait dans une zone, on ne la voyait pas.
Ah, ça fait.
On ne savait pas où on était.
Tu devinais pas le halo de la lampe, ouais. Spécifiquement par rapport à ce qui était déjà allumé.
Et même, en fait, on ne savait pas où est-ce que vraiment on visait avec notre lampe. Mm-hmm. Et on a essayé de faire en sorte d'avoir l'outline sur le cône de la lampe, en fait. Et ça rendait.
Ouais, surtout techniquement,
pas très bien,
et puis
c'était dur.
Ouais, donc il valait mieux en fait faire un jaune plus appuyé, plus visible encore. Oui. Plus,
c'est ça. Du coup, on a fait des intensités un peu différentes, et c'est plutôt...
Ouais, ça permettait en fait d'ajouter aussi, parce que du coup, le jeu est très contrasté, et du coup, c'était un peu compliqué aussi de venir d'apporter de la nuance en fait dans l'environnement. Et du coup, c'est ce qui permettait justement d'avoir des lumières qui sont très connotées gameplay, qui sont du coup beaucoup plus pêchues et vivantes, on va dire. Là où des lumières plus informatives là, il y a une petite torche, voilà, c'est un peu éclairé ici, ça raconte une petite histoire, du coup c'est beaucoup plus diffus, ça doit pas venir ça doit embêter le joueur visuellement, mais ça permet quand même d'habiller un peu tout ça.
Ouais, de lui faciliter la lecture.
Exactement.
Tout en gardant aussi la place de, comme tu disais, de mettre de la nuance dans les intensités que tu veux mettre à certains endroits ou non, pour attirer l'attention ou au contraire garder les choses un petit peu inquiétantes parce que dans l'ombre.
Exactement.
Parce que pas forcément visible aussi bien que tu voudrais.
On joue beaucoup avec l'obscurité qui est représentée par le noir. Et justement, on joue vachement avec la question qui est trop dans la tête du joueur de qu'est-ce qui se cache là justement dans la pénombre.
Okay.
Du coup, il y a des moments qui sont beaucoup plus calmes, que ce soit par l'ambiance de la pièce ou même la musique en fond. Et du coup, il y a des moments où on va mettre en évidence un danger. Donc vous parliez par exemple à la fin de la grande salle avec la statue, c'est justement un moment où on te fait comprendre que
ça va pas juste être une balade.
Mm-hmm. Bon, après, tu commences dans une cage, donc déjà de base.
Oui,
ça va.
Mais elle était plutôt cool cette cage.
Est-ce que tu l'avais pas mérité? Non, c'est pas la question. pas la question.
J'ai eu des réveils plus compliqués que ça. Mais
c'est ça parce que tu reviens du Hellfest.
Est-ce que tu veux de tes soirées?
je les conseille à personne. tu parlais tout à l'heure notamment de la musique. Une chose qui est pour le coup très intéressante et je trouvais assez marquante dans la démo, c'est justement le sound design. Au-delà du côté musical, il y a aussi le sound design, donc que ça soit le bruit des pas, le bruit des pièges, le bruit des éventuelles bestioles.
On ne se prononcera pas sur le fait qu'il y en existe ou pas.
Non, des éventuelles. Voilà, ça, c'est possible qu'il y en ait. Alors déjà, le fait que dans un jeu qui se veut, on va dire... alors après, je ne sais pas si vous voulez aller sur un côté plus gore plus tard, ou je ne sais pas, mais dans un jeu qui est clairement un jeu d'ambiance, c'est quelque chose qui est quand même primordial. Comment vous avez travaillé ça? Avec qui? Comment vous avez identifié que c'était très important, que c'était quelque chose d'important? En tout cas, l'impression que j'ai en y jouant, c'est que ce n'est pas un truc que vous avez pris à légère.
Non, en effet, la toute première version qui avait été faite, donc le prototype, je m'étais principalement occupé de l'aspect sound design et musique. En fait, j'avais récupéré beaucoup de choses à droite à gauche, mm-hmm. et j'avais essayé d'assembler tout ça ensemble et de faire quelque chose de correct. Ça marchait déjà bien, et du coup on s'est dit, si c'est vraiment fait par quelqu'un dont c'est le métier, ça peut être vraiment super. Et c'est là, du coup, que Paul nous a rejoint, qui a été notamment sound designer sur Temp Zero. On a travaillé ensemble, justement, pour vraiment avoir la meilleure expérience sonore possible, où, du coup, on réfléchissait vraiment à l'intention, en fait, de ce qu'on voulait faire ressentir, à quel point le son était important ou non. Et ça a été aussi pas mal d'itérations. Et après, en vrai, il est super fort, donc ça a été assez facile. Pour le son, en fait, c'est plus l'intégration des musiques qui était beaucoup plus compliquée, parce qu'un son, en général, il y en a beaucoup où, en fait, on lance le son et à un moment précis où il y a une phase de gameplay. En vrai, c'est quand même challengeant, en fait, d'avoir le bon son, la bonne durée, etc.
Le truc qui va pas te lasser, typiquement, son des... le son des générateurs qu'on pousse ou qu'on tire, je crois que c'est les générateurs ou c'est des caisses qu'on tire, je sais plus. Dans la partie justement, il faut allumer les bons générateurs aux bons endroits là.
Ouais, des petits chariots.
Il y a des petits chariots. En fait, c'est tout con, mais le fait qu'il y ait un léger grincement, ce genre de truc, ça ajoute au fait quoi. C'est le côté. Oui, c'est sinistre, c'est parfait.
Oui, il est propre, il est pas. Tu sens que c'est pas une banque de sons.
Qui a
été plaqué comme ça sur une durée complètement. Enfin, tu vois, sans gérer justement en fonction des vrais déplacements que tu fais avec l'objet. Ouais. Comme tu disais, il y a un vrai soin là-dessus et ça fonctionne bien.
Ouais, pour le son et la musique, on s'est dit que c'était un truc sur lequel il fallait pas lésiner. C'est pas une banque de sons, c'est Paul, le sound designer, il a fait tous les sons à la mano.
Ouais, chez lui, dans son garage.
À l'ancienne, quoi, comme pour les films. Sauf que comme lui, il a pris
des roues qui grinçaient.
Enfin, les bruiteurs, quoi.
Comme il vient du jeu vidéo, il sait faire ça, il sait même mettre dans le moteur, il sait balancer dans le moteur et tout. Mm-hmm. Et après, pour la musique, c'est pareil, toutes les musiques ont été faites. C'est pas par Paul, c'est par Simon. Toutes les musiques ont été faites pour Lighthouse. C'est pas des banques de sons qu'on a téléchargées non plus. C'est okay. Lui chez lui qui a des instruments.
En fait, il est compositeur lui.
Ouais, en fait, Simon, lui, il vient un peu de tout. Il fait surtout de la photo. Il fait des documentaires. Il tourne des clips aussi. Et il vient de la musique parce qu'il a toujours fait de la musique aussi de son côté. Et ça le plaisait de faire ça. Il voulait aller un peu aussi dans le jeu vidéo. Et du coup, il a bien fait le taf. Et c'était intéressant aussi de faire venir quelqu'un qui vient pas du jeu. Mmh. Parce que du coup, c'est un peu comme un cinématique platformer. C'est pas vraiment exactement le même terme, mais avoir un petit truc de.
Pour moi,
du film, en fait.
Pour moi, ça en est un dans l'esprit. Il n'y a pas. Allez, un cinématique puzzle, si tu veux.
Ouais,
tu vois,
voilà.
Mais voilà, on voit de quoi on parle.
Et du coup, on voulait faire venir aussi quelqu'un qui vient pas du monde du jeu vidéo, qui vient de la musique normale, en fait, ou du film, ou des documentaires qui permettent de rajouter cette surcouche qui fait un mélange un peu spécifique, et qui fait Lighthouse, d'ailleurs.
Et ouais, ça marche vraiment bien, ces musiques. Ce qui était du coup le plus compliqué aussi, c'est pour ça que je disais que c'était les musiques les plus compliquées à intégrer, c'est qu'en fait... on voulait vraiment qu'elle représente des zones du jeu. Donc en fait, c'est plus presque des ambiances musicales à certains moments. Et du coup, c'était ça qui était compliqué, c'est en fait de les faire sur plusieurs niveaux, la musique, pour que justement, il y ait une première partie qui se joue quand t'es un peu loin et qui commence à te montrer un peu à quoi ça va ressembler. Et quand tu commences après à rentrer dans cette pièce, justement, avec le pont et la statue... la musique va vraiment...
Elle est un peu crescendo.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, quand t'es un peu au centre, là, on en voit tout. Et voilà, ça a été pas mal aussi de recherche de comment faire ça, comment faire ça bien, comment bien timer, tout ça. Donc c'est pour ça que je disais que c'était le plus challengeant là-dessus.
Un truc dont on a... Quand on vous a vu, en fait, à Indie Game Lyon, on était assez étonnés de savoir que c'était la première fois que vous faisiez jouer ce jeu à des gens que vous ne connaissiez pas.
Oui. Quelle est la question?
C'est un projet que vous avez depuis un certain temps. Vous l'avez fait playtester. Ouais. Comment s'est passée cette journée à l'Indie Game Lyon, justement, déjà, est-ce qu'il y avait du stress en amont à base de c'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, comment s'est passée la journée? Comment s'est passé les tests, les retours? L'installation, bref, l'expérience Indie Game Lyon pour vous, ça a été comment?
Bah, c'était vraiment cool. En vrai, de toute façon, le jeu, alors c'était la première fois qu'on le faisait au public, mais la version du puzzle à laquelle vous avez joué, je sais pas combien on en a fait avant, je pense qu'il doit bien en avoir 10-15.
Ouais, en fait, on a pu vraiment faire tester dans des écoles, en fait, du coup, ça a pu être aussi. Très intéressant, et en fait on s'est rendu compte que les retours qu'on a eus à l'Indie Game Lyon, c'était un peu le même genre de retour. Et du coup, en fait, on a fait vraiment beaucoup de playtests avec des gens qu'on connaissait plus ou moins, en fait. Là, c'était vraiment la première fois officiellement, entre guillemets, dans un lieu dédié.
Sans cette grand public, on va dire.
Ouais, c'est dans l'idée.
Où en gros, c'est pas forcément des joueurs, c'est pas... forcément ni des joueurs ni des gens que tu connais,
des créateurs de jeux
des gens qui aiment ce genre de jeu aussi
oui.
Et non, ça c'est franchement, ça a été super bien accueilli. Je crois que ça, l'installation, moi, ça va, c'était plutôt cool. On avait deux PC portables, donc c'était pas très compliqué à installer, quoi. C'était notre premier truc un peu où vraiment on était un peu avec toute l'équipe aussi.
Oui, vous étiez quelques-uns, oui, cool. Quand même,
ouais. Ouais, du coup, en plus on a eu de la chance parce que franchement, du moment où ça a commencé, on avait les deux PC. Les deux PC, c'était tout le temps, ça tournait tout le temps. On avait tout le temps, tout le temps du monde. Donc c'était bien qu'on soit quatre.
Pour pouvoir accueillir et discuter avec les gens, faire les retours en direct.
Parce qu'il y avait des gens du coup qui voulaient plus parler avec nous et qui disaient je testerai plus tard s'il y a une démo, enfin où je wishlist le jeu et comme ça je suis au courant.
Oui, notamment on a une amie qui s'appelle Lysandra et elle en fait elle est pas à l'aise sur le fait de tester les jeux quand il y a autant de monde, etc. Par contre, elle notait à chaque fois, discutait et tout pour limite contacter les gens après pour pouvoir tester. Après,
c'est ce qu'on s'est rendu compte du monde qu'il y avait, parce que du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des cartes de visite Lighthouse, où derrière on avait mis le QR code, on s'est amené directement sur la wishlist sur Steam. Et on s'est dit, ça va, on en fait une centaine, c'est cool quoi. Et en vrai, il a fallu qu'on en garde voilà. Pour faire le QR, pour que les gens fassent le QR code eux, parce que sinon on n'avait plus de carte.
À la fin, on a demandé aux gens de wishlist le jeu, mais de, si on pouvait garder la carte, c'était cool.
Donc il n'y a pas 100 personnes qui ont testé le jeu, c'est un peu moins. Par contre, sur le stand, pour venir discuter avec nous, pour au moins voir le jeu, on a fait au moins à peu près 150-200 personnes.
Ouais.
Donc pour une première, c'était assez énorme.
Vous étiez pas mal placé parce qu'il y avait de la place derrière vous, là où vous étiez. Je pense que ça a pas mal joué. Ça a pas mal joué, ouais. Il y avait la place pour justement accueillir un petit peu les gens, etc. Vous auriez été le côté où il y avait des
dans les couloirs, en fait,
à l'intérieur, ça aurait peut-être été.
Il y avait deux de chaque côté, ouais.
Ouais, plus difficile, le fait de garder les gens suffisamment longtemps pour en parler, pour, etc. Et bah, il y a aussi le fait que votre jeu, il a. Bah, c'est aussi son apparence, en fait, qui vient attirer l'œil tout de suite. Donc, j'imagine que ça joue aussi pas mal sur le fait de faire venir du monde sur le. Et vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous n'avez pas besoin d'énormément de choses pour que les gens se disent tiens, bah, c'est sympa, enfin tiens, il y a quelque chose, quoi, il y a quelque chose.
Et puis entre guillemets, bah, il y a un bonhomme, il y a une manette, bah, c'est parti, quoi.
Mm-hmm, aussi, ouais. Et puis la démo est. C'est quoi, 10 minutes
15.
C'est entre 10 et 15, ça dépend le puzzle, comment tu y arrives rapidement ou pas, quoi.
Ouais, ouais. Mais et du coup, tu as quand même le temps de renouveler pas mal les gens qui testent.
Ouais, en fait. Carrément. Et qu'avec deux PC en plus, ça va
bien. Ouais, voilà, d'autant plus. Ouais.
Et combien de gens écrasés par le mur qui avance?
Vous avez fait des stats de soir, hein?
Des trucs rigolos comme ça.
Non, on n'a pas encore mis des analytics.
Non, faut que j'en mette, mais.
Il faut qu'on en mette.
Ça aurait été rigolo, ouais.
Ouais.
Bah, rien que pour vous, pour vous dire, attends, c'est un petit peu trop difficile, c'est un peu trop facile.
Parce qu'entre guillemets, c'est le premier moment où, entre guillemets, c'est le premier point de tension pour le joueur où tu dis. C'est le premier moment où tu dis, c'est potentiellement, il y a de la difficulté sur ce jeu. Pas qu'elle soit grande ou pas grande, c'est que. Auparavant, c'est vraiment de la pure découverte. Bah,
tu peux pas perdre avant, je pense. De mémoire, dans le truc, je crois pas que c'est le premier moment où tu peux
perdre. Juste avant, t'as déjà les pièges pour te montrer ce que c'est.
Il y a des pièges, en fait, où tu peux t'empaler sur des trucs.
C'est vrai.
Mais il n'y a pas un mur qui te.
Et moi, je m'en suis rendu compte qu'il y avait ces pièges après en regardant quelqu'un d'autre jouer. Moi, j'étais passé tout droit, j'ai rien vu.
Ouais, moi aussi.
On n'a pas vraiment de stats. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les gens ne meurent pas plus de 3 fois. Après, mais sur le fait de retenir le parcours et de comprendre comment à la fin tu dois tourner, en fait. Mais c'est sûr que si au bout de la troisième fois, tu t'en parles sur le premier piège alors que tu l'as vu, tu l'as allumé, tu te le prends, enfin ça compte pas comme c'est une mort bête, c'est pas comme une mort de t'as oublié de ce qui se passait ou t'as pas compris ce que tu devais faire. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pas un die and retry comme Limbo. Ouais, tu meurs.
Non, Limbo, il te demande de crever. Hein.
Là,
pour
non.
Pour savoir ce qui t'attend, en fait, t'as pas le choix, t'es obligé de foncer dans le tas.
Il te demande de crever. La personne qui me dit, moi, j'ai fini Limbo, la première fois que j'ai eu Limbo, j'y ai joué et j'ai fini First Try, tu mens. tu mens.
Je sais pas si c'était un traumatisme de Limbo pour ma part, mais c'est vrai que c'était très réfléchi, en fait, le fait d'avoir une expérience pour le joueur qui. Paraissait compliqué et avec une forte tension, mais dans l'objectif d'avoir très peu d'échecs, en fait, en tout cas d'avoir plus la sensation d'être passé à pas grand chose, d'avoir quand même réussi. Parce que du coup, dans les jeux comme ça, donc c'est important quand même qu'il y ait des notions d'échecs. Je dis pas le contraire, hein, mais c'est plus que dans ces jeux comme ça qui ont une forte ambiance. Je trouve que dès que tu meurs 3-5 fois, enfin un peu trop, en fait, ça te sort de l'expérience, et du coup, je trouve que c'est là où ça perd un peu de l'intérêt.
Bah, la frustration arrive.
Oui, et du coup, tu fais plus un peu mécaniquement, et du coup, je trouve que c'est moins intéressant en termes d'expérience.
Je trouve que d'ailleurs, parler de Playdead, ça s'est retrouvé aussi sur Inside, qui est quand même moins compliqué, qui est beaucoup moins die and retry que Limbo, même s'il y a des moments un petit peu plus tendus, mais rien, par rapport à Limbo, c'est rien. C'est-à-dire que par rapport à Limbo, c'est balade. Je suis toujours trauma par la grosse bouboule de la fin, mais
Inside, il y a quand même des moments
autre sujet.
où tu vas te faire avoir forcément, par exemple dès le début la course poursuite, à un moment il faut que tu comprennes que tu dois faire un petit pas en arrière pour tu dois pas juste avancer. Ça permet aussi d'apprendre aux joueurs que c'est pas juste un va à droite et c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces genres de cas où en fait t'apprends un peu par l'échec.
Oui.
Et c'est une vision
À l'ancienne.
Ouais, je trouve.
Bah, tu peux équilibrer, quoi. T'es pas obligé d'être en punition en permanence.
Oui, c'est sûr.
Tout en rendant intéressante l'échec, en rendant intéressant l'échec aussi. Ça peut être.
Ouais, carrément.
Mais c'est une question d'équilibre et de.
Oui, bah, je trouve que c'est ce que un jeu comme Céleste faisait bien. Le jeu est dur. Il est vraiment dur, mais il te dit à chaque fois.
Je connais des gens pour qui c'est déjà trop. Mais l'équilibre, il est toujours individuel aussi.
En gros, c'est pas du die and retry, dans le sens où tu dois forcément crever.
Il y a des moments.
Moi, je trouve pas. Alors l'effacer, évidemment, parce que bon, non, je parle du jeu vanilla. En gros, c'est on t'explique les mécanismes. Et après, en gros, c'est plutôt de la dextérité, donc c'est pas pour moi le côté die and retry de il faut que tu crèves pour comprendre ce que tu dois faire.
Pour avoir appris le piège et comment
faire monter ça. Ouais. C'est pour alors que bon, Limbo, il y a vraiment des moments où tu dis non.
La première fois que tu te prends le parasite,
voilà.
Évidemment, tu vas mourir parce que t'as pas le choix.
Ça m'étonne que tu sois allé jusqu'au parasite parce que.
J'ai fini Limbo.
Non, moi ça m'étonne parce qu'au début du jeu, il y a un truc avec des grandes pattes là.
Ouais. Il a fait en fermant les yeux.
Ouais, voilà,
exactement. Exactement. Ça m'a pris 2 jours, mais. C'est plus compliqué les yeux fermés.
Au son.
On en parlait avant d'attaquer l'émission. Là, ce que vous avez présenté, donc c'est une démo, une vertical slice, enfin appelez ça comme ça vous convient par rapport à ça. Mais l'idée, c'était effectivement d'avoir quelque chose à présenter pour aller aller plus loin et trouver du financement, de l'édit. Ouais. C'est là où vous en êtes actuellement dans le projet.
Ouais, je vais faire un total un peu sur sa part en prod. Ce qu'on a fait déjà pour faire la VS là, Vertical Slice, de toute façon dans chaque studio c'est une définition différente de ce que ça représente et de ce que c'est, donc c'est un peu à chaque studio ce qu'il veut faire. En gros, pour la faire, donc on a travaillé sur notre temps libre, on a des amis qui nous accompagnent, donc bénévolement. Il y a Quentin, il y a Sam,
Gaëtan.
Et en bénévole, je crois que c'est tout. Ouais. J'espère. Et après, en plus, j'espère oublier personne, je suis vraiment désolé. Et en plus, donc du coup, dans le studio dans lequel je travaille, moi c'est Gaméléon, il y a une partie de l'équipe qui travaille pas bénévolement. On a fait rentrer en fait Gaméléon au capital de l'entreprise en échange de graphes, donc de gens qui viennent nous faire de l'art. Et du coup, il y a Alex sur les caras, Annick sur l'animation et Tristan sur les environnements. Donc ça fait un peu beaucoup. Après, pas tout le monde est à 100%.
Oui, mais au final, ça fait quand même plus d'une dizaine d'intervenants.
En tout, on est 12.
Une douzaine d'intervenants.
Au pic, où tout le monde a travaillé en même temps, c'est arrivé peut-être une ou deux semaines où tout le monde était vraiment en même temps. Ça a fait, c'était 12 personnes en même temps. Mm-hmm. C'était un peu.
Après, à gérer, c'était quand même. Il n'y avait pas 12 personnes, il y avait peut-être 6-8, c'était déjà bien assez.
De quoi faire un GTA.
Mais ouais, en un mois ou deux mois, il y a eu 12 personnes qui sont passées. Enfin, c'était sur toute la prod.
Comme dirait Jeff Keighley, c'est un solo dev et 12 de ses potes.
Jeff Keighley. On a fait du name dropping de qualité.
Pardon, je t'ai coupé.
Et après, ce qu'on a fait aussi pendant 5 mois, c'est qu'on a pris quand même des gens dans sa part en prod. Donc, on a pris 2 personnes. On a pris Anaïs en concept. Et on a pris Claire aussi en environ, qui elle était à 100% et qui elle par contre était payée par la boîte. Et pour pouvoir les payer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a du coup demandé des aides. On a eu la subvention BPI French Tech.
Okay.
Donc on a eu 20 000 euros de la BPI. Et aussi, on a fait une levée de fonds avec les amis et la famille, qui nous a vraiment beaucoup aidé. On a fait 33 000 euros. Donc en fait, on a un proto qui en termes d'argent pur, c'est à peu près 40 000 euros. Et si on rajoute après tous les... Parce que nous, on ne se paye pas aussi, parce que nous, on a cassé notre job. Donc si on part vraiment avec les gens en plus, en bénévole, et ce qu'a rapporté Gaméléon, on est sur une veste de 15 minutes qui est aux alentours quand même des 70 000 euros.
Hein. Okay.
Faut pas enlever ça non plus, il y a quand même un peu de monde sur le projet. On a beaucoup de chance qu'on a des amis qui nous aident. Je pense qu'on n'en serait pas à ce niveau-là de qualité sinon. Surtout qu'en plus, on est parti sur un projet très arty, alors que dans la team, on n'est pas artistique.
Ouais, c'est un projet aussi très peu rentable en termes de coûts investis pour l'environnement par rapport au temps que tu y passes. Ouais. Et justement, on parlait de Limbo tout à l'heure. Je pense que une bonne manière entre guillemets de faire du die and retry, c'est que tu passes plus longtemps dans le niveau et du coup t'as moins de zones à faire.
Mon jeu il fait 2 heures, par contre tu passes 1h30 sur niveau 1.
et après c'est la cinématique de fin. Bon, voilà.
Et après, 3 heures. Et après du coup il y a Simon et Paul pour le son et la musique. Et du coup maintenant le but c'était vraiment tout mettre dans cette démo pour maintenant aller chercher des publishers. C'est vraiment notre strat principale pour faire tout le dev et en même temps pour s'occuper de tout ce qui est marketing, après faire de la quality assurance aussi. Nous ce qu'on a fait un pari, c'est qu'on va pas avoir de localisation, ou parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas de dialogue.
Il y en a très peu.
On a que les menus et lui pour nous aider vraiment au tout départ, mais sinon en fait il y en a pas.
Et puis mine de rien, et puis si on parle
page Steam.
Et puis enfin si on parle d'argent, un doublage c'est cher. C'est cher, c'est extrêmement cher.
Bah, du coup, nous, on a tout viré ça.
Comme
ça.
Voilà, oui. Si t'as rien à dire, ça, c'est plus simple.
Et on va même vouloir rajouter des collectables, et les collectables qu'on veut rajouter pour raconter l'histoire, pour l'instant, on part sur des photos, des gifs et des vidéos. Donc, il n'y aura même pas de loca. Et si on veut rajouter des choses un peu mystiques, on part sur un alphabet inventé, qui est sur des symboles, un peu comme a fait Chant of Senar.
Ouais.
Mais eux ils le lient après avec quelque chose pour bien comprendre. Bah nous
ouais, c'est pas de location pour, ça, pour l'univers en fait, ouais, c'est des réflexions qu'on a.
Moi je suis très fan de Hyperlight Drifter, donc ça me va de créer des parce que évidemment après un peu comme dans Fez, il y a des acharnés qui vont trouver forcément une signification au truc, mais en vrai tu peux très bien faire un lore qui se tient. Notamment, enfin, pour. Je pense à Hyperlight Drifter parce que globalement, un peu, en gros, au tout début, on te dit, en gros, prends ton épée, c'est tout ce qu'il y a écrit, après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a rien du tout, quoi. Et avec, des fois, tu trouves des trucs d'alphabet, des machins, et en fait, c'est à toi de refaire l'histoire avec ce qui te prend. Et je trouve que ce principe-là est plutôt bon. C'est pas pour le côté je suis mystérieux, mais c'est juste parce que en gros, t'y mets ce que t'as envie. Enfin, en tant que joueur, t'y mets ce que t'as envie d'y mettre, quoi. Ouais, et je trouve ça intéressant. Et si t'as envie, si t'es là juste pour les puzzles, tu fais les puzzles. Si t'as envie de te triturer en disant je veux l'or, je veux comprendre ce qu'il y a machin, et ben t'y vas aussi, quoi.
Ouais.
Et moi, je trouve que c'est un choix qui est bien, en fait, qui est bon, en fait.
Parce que tu peux le faire sans te taper des pavés de texte.
C'est ça.
Il y a des gens, on se connaît des gens qui aiment bien, hein, mais.
Oui, évidemment. Mais par contre, il faut.
Je sais qu'on a oublié.
Ah.
On a oublié le narratif. On a oublié Acte Zéro avec Anthony, et il y a aussi Raquel Miranda qui nous a aidé au tout début aussi, qui est passé par le projet.
Okay.
Donc, on a un peu de monde qui passe sur le projet quand même. Mmh. C'est pas un projet de gens dans leur garage, même si nous, on est dans notre garage finalement. Il y a du monde, quoi.
Ok. Enfin,
comment se passe pour l'instant cette recherche de publisher?
Ça se passe bien. On a vraiment des bons retours. On a qui sont. Chaque publisher est assez différent, donc on a des publishers qui vont nous demander de rallonger un peu le temps, parce que pour l'instant, nous, on prévoit un jeu entre 3 et 4 heures. Il y a des publishers qui veulent avoir un truc un petit peu plus long. Il y en a pour qui ça leur va très bien, et c'est juste... Bah, en fait, comment ça se passe pour entrer chez un publisher? La plupart, hein, c'est pas tous, mais la plupart, c'est... On va rencontrer d'abord un scout. Donc, ce qu'on appelle un scout, c'est quelqu'un qui passe son temps à aller chercher de partout des jeux qui peuvent rentrer chez eux pour essayer de les faire briller.
Oui, comme l'a fait comme faisait Boule à Poire, enfin désormais fait Boule à Poire, qui bossait chez Game Cult, ou celui ou d'autres qu'on a rencontrés chez PID Games notamment.
Plugin Digital, il est parti, mais c'était William Bertin.
C'était Sky Willy, ouais, qui faisait
voilà,
ça.
C'est ça.
Mais il y est plus, mais ça a été son métier pendant un certain temps.
Ouais. Et une fois qu'on a passé ce truc-là, donc on envoie tout ce qu'on peut à cette personne, qui fait rentrer ça à la team. Business ou marketing, ça dépend dans quel sens ils font, et aussi souvent au patron. Et en fait, c'est que des gates à valider.
Okay.
Et en fait, chaque petite gate est à valider. Donc, si ça passe d'abord par le marketing dit OK, on peut faire quelque chose avec ça, on voit directement où on peut se projeter. OK, ça passe à suivant. Ensuite, ça va passer à la partie business. La partie business fait sa petite roulette, quoi, fait un peu tout ça pour regarder combien ça coûte. combien ils dépensent dedans en plus, parce qu'il y a souvent, c'est, on demande de l'argent pour finir, mais en même temps, il faut faire tout ce qui est quality assurance, souvent de la localisation. Après, il faut faire le push marketing, donc il faut aller voir plein de personnes, c'est des coûts encore en plus. Et du coup, combien ça coûte? Et combien on pense pouvoir gagner avec ça? Et donc, en vrai, souvent, c'est plus eux qui font le go, no go. Et du coup, bah, là, on est dans ces phases-là. D'accord. Donc, on a eu pas mal de retours qui sont super intéressants. Mais faut qu'on passe les gates les plus importantes. Après, il y a d'autres choses aussi. Nous, c'est notre stratégie principale de faire ça. Après, il y a toujours le crowdfunding. Il y a toujours faire des levées de fonds. Là, il y a un truc qui est super intéressant qu'on vient de faire, qui s'appelle le Rising Tide Challenge. C'est Blue Ocean Games qui a créé ça avec Krafton. Krafton, c'est un gros publisher coréen.
Oui.
BBG notamment.
Ouais, c'est ça.
Entre autres.
Entre autres.
Mais notamment quand même.
Ils viennent d'ouvrir ça.
Bon, 90% de sa thune, c'est PUBG, ça va.
C'était bon. Hein. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert ça. Le Rising Tide Challenge, c'était, on présentait un trailer du jeu. Et après, il y a plein de jeux qui se mettaient. Et ensuite, ça partait pendant 13 jours. Les gens votaient sur la plateforme. C'était un système de match. Ah oui. Où c'était un 1v1.
Ah oui,
les gens votaient pour, et en fait ça faisait monter ton elo. Okay. Donc ça faisait manquer ton rang dans le classement.
D'accord, donc comme le elo comme dans les échecs. Hein.
Ouais, il y a un côté Battle Royale un peu aussi. Ouais.
C'est ça. Mmh. Et,
PUBG quoi.
Je vois pas de quoi tu parles.
Et du coup on s'est retrouvé à être deuxième sur 1066.
Ah ouais, pas mal.
Donc on est vraiment hyper content de ça. Mmh. Et ça nous ouvre les portes pour pouvoir aller directement pitcher devant les investisseurs. Qui viennent, par contre, ils viennent faire ce qu'on appelle de l'equity, donc ça veut dire qu'ils viennent prendre des parts dans l'entreprise.
Ah.
Donc c'est un truc auquel on avait déjà discuté, donc c'était pas la stratégie première, mais vu qu'on a eu ça et que ça nous ouvre des portes, c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir en ce moment.
Ok, bah écoute, c'est super intéressant en tout cas, ces informations un petit peu de l'intérieur qu'on n'a pas forcément accès quand on est simple consommateur ou observateur. Donc c'est vachement intéressant.
C'est con, on ferait bien une deuxième heure là-dessus, hein, parce que moi je suis chaud.
On va devoir s'arrêter là, effectivement.
Mais oui.
Mais ce serait intéressant en fait de suivre un petit peu l'évolution de tout ça, parce que oui, comme tu disais, il y a beaucoup de choses à dire.
C'est ça. Et puis
qui nous intéresse.
Voilà, dès que vous avez un publisher, vous revenez quand vous avez un publisher, vous revenez au million seller. Enfin, on a dit voilà. Ouais. Et puis évidemment, l'interview choc. Regardez ce qu'ils sont que sont-ils devenus.
C'est ça. Ils étaient tout seuls dans un garage.
Maintenant, ils se droguent à plusieurs dans un
garage. Voilà.
Enfin, c'est l'objectif. Hein.
Et voilà. Maintenant, ils portent des casquettes, des casquettes de Elon Musk au Super Game Show.
C'est ça. Mec, cinématique platformer Great Again.
Voilà, c'est
exactement
ça.
Allez, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été, d'être venu.
Merci Anne, merci Jérémy.
Merci beaucoup pour votre invite, c'était cool.
Merci Xavier.
Eh ben merci Romain, c'est une fin de saison.
Ouais, on en reparle la prochaine fois.
Peut-être quand on aura moins
bientôt.
Chaud, on fera une émission. La dernière fois, on en avait fait une en plein été et c'est bien possible que ça réarrive. Voilà. Mais pour l'instant là, fin juin, terminé. Ouais. On n'en a pas prévu pour plus tard, mais ça arrivera. Voilà.
Yes. Eh ben merci beaucoup et puis passez une bonne soirée.
Amusez-vous bien et à la prochaine et peut-être à la rente et peut-être dans cet été et au dernier carat à la rentrée.
Salut.
Salut.